Bonjour à tous et à toutes. Donc merci pour cette invitation. Ça me fait toujours très plaisir de venir de Saint-Étienne à Paris. Moi, je suis Michel Rothenberg. Je suis professeur à l'Université de Saint-Étienne. Donc, je vais vous présenter les trois auteurs que nous avons avec nous aujourd'hui et qui ont participé à la publication de cet ouvrage collectif de Jean-Louis Tornator, Le patrimoine comme expérience. Nous reviendrons sur le titre dans un petit instant. Je voulais tout d'abord vous dire deux, trois mots des auteurs qui sont présents ici. Donc Jean-Louis est professeur à l'Université de Dijon. Tous les spécialistes du patrimoine le connaissent bien. Il est également directeur du centre Georges Chevrier, qui est devenu un maire pluridisciplinaire à Dijon. Et il a beaucoup publié sur le patrimoine. Je ne vais pas citer tous les travaux, simplement vous en avez un sous les yeux, avec une introduction particulièrement roborative, dans lesquelles vous retrouverez beaucoup des thématiques qui sont les siennes depuis quelques années. Deuxième personne qui est à ma gauche, Anne-Marie Lozinski. Très bien. Elle m'a dit que son nom était difficile à prononcer et je l'ai prononcé du premier coup.
Bravo.
Très bien. Donc Anne-Marie est directrice d'études à l'EPHE. Elle a beaucoup travaillé sur l'Amérique latine, également sur l'Europe de l'Est. On en parlait à l'instant, en particulier sur la Croatie et sur la Bosnie. Donc, c'est qu'elle a beaucoup plus travaillé sur des questions d'anthropologie religieuse, d'anthropologie de la mort, plutôt que sur le patrimoine. Je vous citerai simplement le dernier ouvrage qu'elle a publié avec Valérie Robin-Azevedo, « Retour des corps, parcours des âmes, exhumation et deuil collectif dans le monde hispanophone ». Donc on n'est pas directement sur des questions patrimoniales, mais sa contribution dans l'ouvrage collectif de Jean-Louis Tornator montre bien le lien, et on le verra d'ailleurs, ça sera probablement l'objet d'une question que je vous poserai tout à l'heure, entre ces questions patrimoniales et les questions religieuses. Dernier auteur, donc Cyril Isnard, qui est, il y a encore peu, directeur de recherche, chargé de recherche au CNRS, et qui n'est pas encore directeur, mais qui a passé son habilitation il y a... Excuse-moi pour la confusion, il est bien parti. Donc Cyril est chargé de recherche à l'IDEMEC, à Aix. Donc, c'est un anthropologue très prolifique qui a beaucoup travaillé sur l'anthropologie religieuse, sur le folklore. Il n'y a pas tant d'anthropologues qui ont travaillé avec ça sur le folklore, ce n'est pas si fréquent. Et puis, évidemment, beaucoup sur le patrimoine, sur plusieurs terrains. Je ne vais pas tous les citer parce que j'aurais peur d'en oublier, parce que chaque fois que je vois certains de tes travaux, je me rends compte que tes voyages t'amènent de plus en plus loin. Le dernier ouvrage que Cyril vient de publier s'intitule « Fabrique du tourisme et expérience patrimoniale au Maghreb » aux éditions Jacques Berck. Voilà. Alors, voilà, c'est cette présentation. Alors, le format qui va être le nôtre ici, je vais... présenter en deux mots très très rapidement l'ouvrage. Je passerai la parole aux différents auteurs, donc Jean-Louis Tornator d'abord, en lui posant deux, trois questions, et puis nous continuerons avec Marie et avec Cyril. Simplement, ce qui m'a été demandé, et je pense que c'est une très bonne idée, c'est que vous n'hésitiez pas dans la salle à intervenir. S'il y a des points que vous souhaitez voir développés, des choses peut-être... voire éclairci, n'hésitez pas à lever la main ou à pas lever la main. Enfin, je ne sais pas quels sont les usages dans cette salle. On lève la main ou comme à l'école ou comme à l'université. Non, on lève pas la main. Ah, moi, je te voyais pas. Pardon. Voilà, donc vous prendrez la parole quand vous voudrez, si la nécessité se fait sentir. Voilà. Alors deux mots sur l'ouvrage très rapidement. C'est un ouvrage collectif qui est issu d'un séminaire qui s'est tenu pendant 2 ans, je crois, ou 3 ans, Jean-Louis.
Un an.
Ça a fait intervenir beaucoup de gens pendant un an à Dijon, au centre Georges Chevrier. L'idée, alors tu en parleras tout à l'heure, la thématique, la problématique de l'ouvrage a évolué, mais cette question de l'expérience était déjà présente, me semble-t-il, au moment du séminaire auquel j'avais participé. Et on va la retrouver ici, dans l'intitulé. C'est un point tout à fait central sur lequel je t'interrogerai. Donc, il y a, je n'ai pas compté, à peu près une douzaine d'auteurs, certains articles étant publiés avec deux noms de personnes. Je pourrais en dire très rapidement, sans du tout déflorer le contenu, on y reviendra, mais c'est que ce sont des articles qui sont à la fois des articles qui posent un certain nombre de questions théoriques, on va en évoquer quelques-unes, qui sont importantes à la fois pour l'anthropologie et pour le patrimoine, et je pense que le lien à faire entre les deux est quelque chose de tout à fait essentiel dans cet ouvrage, qui interroge autant les anthropologues qu'il interroge le patrimoine, qui interroge également la culture. Et puis, il y a également un certain nombre de textes qui sont, disons, qui ont un contenu plus ethnographique. Alors, je n'allais pas dire plus facile, mais plus ethnographique, plus empirique, ce qui fait que tous les types de lecteurs y trouveront, je pense, plaisir à le lire. Alors, Jean-Louis, je te pose, en tant que directeur de collection, la première question qui me vient à l'esprit. J'en ai toute une série, donc je ne les poserai peut-être pas toutes. Mais le patrimoine comme expérience, ça serait bien que tu puisses nous dire d'où vient ce titre qui peut paraître un petit peu incongru pour des spécialistes du patrimoine.
Pourquoi incongru ?
Je ne sais pas.
Je ne vais pas répondre directement à la question, je vais répondre.
Il a éteint. C'est pas le bon, j'avais éteint. Je vais répondre en essayant de faire la genèse de ce projet et la relation avec le séminaire. Le séminaire s'appelait Patrimoine et anthropologie, quoi de neuf, actualité d'un domaine de recherche. Ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'évaluer la performativité ou la vivacité, le dynamisme de... d'une anthropologie du patrimoine et l'orientation qu'elle pouvait prendre au regard d'un thème qui reste toujours sous-jacent, qui était celui de l'implication des anthropologues dans la chose patrimoniale. Donc l'idée qui était de départ, c'était donc de savoir si une anthropologie du patrimoine pouvait être une anthropologie patrimoniale. Au même titre, je vais prendre l'exemple que la géographie de l'environnement est aujourd'hui une géographie environnementale, c'est-à-dire cette différence de passer du substantif à l'adjectif marquait le fait que l'objet de recherche pouvait avoir une influence sur la discipline. Et en quelque sorte, l'objet, le patrimoine, pouvait en quelque sorte transformer la discipline. En quelque sorte, il s'agissait de la possibilité qu'il y ait en quelque sorte une co-construction, en tout cas une hybridation de l'anthropologie du patrimoine, faisant en sorte que finalement les anthropologues se confrontant à la question du patrimoine sortent en quelque sorte pas transformé, mais décalé par rapport à leur positionnement initial. La question, finalement, telle qu'elle a été traduite dans l'ouvrage, qui est issu de ce séminaire, qui comprend un certain nombre de personnes qui ont présenté leurs travaux, d'autres noms, comme Anne-Marie, par exemple, qui n'avait pas participé au séminaire, qui ne comprend pas la totalité des personnes qui ont participé à ce séminaire. Donc, c'est uniquement quelques textes qui sont issus de ce séminaire. Et il apparaissait, finalement, de ce questionnement sur la relation entre anthropologie et patrimoine, que le patrimoine pouvait être envisagé comme une expérience qu'avaient vécu les anthropologues sur leur terrain, rencontrant la question patrimoniale, et que de cette expérience des anthropologues les avait conduits, ils pouvaient les conduire à une forme d'implication au regard des situations qu'ils pouvaient avoir observées, avec lesquelles ils pouvaient avoir travaillé. Alors, à cela s'est ajouté le fait que depuis de nombreuses années, enfin depuis peut-être, je crois que la première occurrence du patrimoine comme expérience, je la trouve dans un de mes textes en 2012, quelque chose comme ça, 2000, peut-être, c'est peut-être pas à l'occasion d'une rencontre avec Cyril, je ne sais plus exactement, donc c'est assez ancien. Et donc ça a été l'occasion pour moi de travailler cette question-là, d'envisager quel type de situation pouvait se développer, quel type d'expérience pouvait se nouer, tous les signes du patrimoine, en tant qu'elles sont dues à une démarche qui serait dite patrimoniale.
Très bien.
On va dire
c'est bon.
Alors.
Et alors, oui, tu veux continuer ?
Oui. Donc, le projet initial, enfin, l'appellation initiale va se trouver dans le sous-titre implication anthropologique qui se décline aux deux sens du mot implication, hein, c'est-à-dire à la fois, alors il faut que je reprenne mes notes, je ne sais jamais, c'est-à-dire comment les anthropologues s'impliquent sur les terrains et quelles sont les implications de ce travail, quelles sont les conséquences de ce travail anthropologique.
Bon, c'est une question sur laquelle nous reviendrons, mais je ne souhaitais pas qu'on aborde d'emblée cette question de l'implication, qui renvoie également à celle de l'expertise sur laquelle plusieurs textes, qui est traité par plusieurs textes. Il y a, me semble-t-il, quand on lit le livre, une question un peu séminale qui est traitée, qui est part de réflexions d'anthropologues. Donc, j'ai oublié son prénom, Acuña.
Manuela.
Oui. Merci, Manuela Carriero d'Acuña et Christine Kirchenblatt-Gimlet, que je connais mieux, qui, dans lequel, que tu reprends de ton côté, qui est également repris par Jean-Louis dans son introduction, qui distingue le mot culture avec des guillemets et culture sans guillemets. Alors, il me semble, ça c'est quelque chose qui n'est pas très facile à comprendre dans votre texte, c'est une réflexion un peu assez profonde. Ça serait intéressant que l'un et l'autre, vous puissiez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette différence que vous faites entre culture avec des guillemets et culture sans guillemets.
Je vais commencer, après tu parles. Je vais, puisque tu es spécialiste davantage que moi de Manuela Carneiro da Cunha, mon expérience du patrimoine se situe s'origine dans la mission du patrimoine ethnologique dont tu as parlé tout à l'heure, et donc dans une pratique d'ethnologue au sein du ministère de la Culture. Et elle s'est développée à partir du moment où je suis allé à l'université, au sein du LAIC, ce laboratoire d'anthropologie et d'histoire d'institution de la culture, sur l'institution de la culture, qui a été créée par Daniel Fabre. Le texte séminal qui fonde le LAIC est un texte important par lequel Daniel Fabre faisait valoir l'idée, qui maintenant est une idée somme toute assez commune, mais c'était il y a 20 ans, donc de 2000, selon laquelle les ethnologues et les anthropologues n'étaient plus les seuls spécialistes de la culture. Et qu'ils, finalement, ils se voyaient disputer ce monopole sur la culture par les collectifs, les populations elles-mêmes, c'est-à-dire la culture, les populations elles-mêmes, qui, eux, savaient lire les travaux des anthropologues, bien évidemment, et savaient aussi, après, retirer des éléments, des analyses, des problématisations qu'ils pouvaient réinjecter dans des actions de reconnaissance, de problématisation, des actions politiques, etc. Cette idée, elle était très importante et donc elle a nourri tout le travail, toute la réflexion de Daniel Fabre et le travail donc au sein du LAIC. Il me semble, alors je passe pas... Ce n'est pas le lieu ici de dire les débats qu'il y a eu avec Daniel Favre, les désaccords, mais les débats sur la manière de traiter cette question-là. Mais il m'a semblé, au moment où je faisais j'ai lancé ce séminaire, que le questionnement qui était porté par Daniel Favre était à quasiment de même nature que celui qui était développé par Manuela Carneiro da Cunha, précisément par la distinction qu'elle faisait entre culture sans guillemets et culture avec guillemets. Là, je laisse la parole à Cyril.
Bon, ça tombe bien parce que la semaine dernière, j'ai fait un cours expliqué aux étudiants quelle était la différence entre guillemets. Ah oui, pardon. La différence entre culture entre guillemets et culture sans guillemets, mais elle met une majuscule. Tu le notes pas dans ton introduction, mais dans ses publications, elle met un C majuscule à culture quand il n'y a pas de guillemets.
Dans la traduction aussi.
Ben je sais, en fait, j'ai lu en brésilien, donc je ne sais pas.
Moi, je ne crois pas dans la traduction.
Alors bon, il y a peut-être une petite ambiguïté dans la traduction. Mmh. Alors, l'idée de Manuela da Cunha, c'est dire qu'il y a une culture au sens anthropologique qui existe. Donc, ce sont des cadres d'expérience du monde qui sont partagés par des gens qui forment un groupe parce qu'ils partagent un certain nombre de manières de voir le monde et de le sentir. Et de l'exprimer. Et puis, il y a une autre manière, un autre sens de culture, qui est la culture entre guillemets, à partir du moment où cette manière de voir le monde est objectivée par les groupes eux-mêmes ou par d'autres personnes extérieures, et que cette expression de la culture, cette objectivisation de la culture, au sens de Handler, qui avait travaillé au Québec sur l'ethnicité et sur la notion de culture et d'identité, comment est-ce que cet usage-là de la culture est utilisé comme moyen de transaction et de relations interethniques ou relations de commerce ou relations d'échange culturel avec des gens qui n'appartiennent pas à la propre culture? Donc, à partir de quand est-ce que on va transformer, quel est le processus qui va permettre de passer de la culture comme un vécu partagé par un groupe à un objet qui est diffusée au-delà du cercle initial. Et elle prend l'exemple des savoirs pharmacologiques des populations amérindiennes qui sont totalement objectivées par les industries pharmaceutiques occidentales. Et du coup, les Amérindiens sont totalement dépossédés parce que pour eux, c'est simplement un savoir-faire avec leur environnement. Ils en sont complètement dépossédés, c'est transformé en médicaments, et eux n'ont plus du tout accès à ces savoirs-là, et en tout cas à cette manière de transformer leur culture en culture entre guillemets. Et c'est à peu près le même processus qu'on pouvait voir jusqu'à présent dans le patrimoine, où des expériences, des monuments, des rites, des savoirs, des objets étaient considérés comme des choses allant de soi dans un groupe. Et puis à un moment donné, il y a un ou plusieurs acteurs qui décident de changer le statut de ces objets-là, de ces savoirs-là, de ces lieux-là, pour en faire des lieux objectivés, différenciés du monde culturel normal, et qui entrent après dans une nouvelle économie qui est celle du patrimoine culturel. Donc la différence entre culture avec un grand C et culture entre guillemets, c'est celle-là. C'est à partir du moment où c'est objectivé, où la culture sort du cadre, on va dire, quotidien, familier et banal du groupe, et qui devient un objet d'échange pour aller voir des autres. Voilà. Et le patrimoine, c'est une des figures de la culture, entre guillemets, parmi d'autres, comme l'est le médicament, ou comme peut l'être d'autres...
J'ajoute que c'est un moyen aussi de domination,
oui,
quand
bien
c'est,
sûr.
C'est le mouvement de l'Occident vers les autres les pays de la périphérie.
Et en ce moment, on assiste à un renversement où les gens qui seraient dépossédés de leur culture avec un grand C parce qu'elle a été transformée par d'autres en culture, entre guillemets, se réapproprient l'objet transformé, entre guillemets, pour en faire une nouvelle propriété, leur propre propriété. Alors, c'est le bouquin de Manuela Carneiro da Cunha va beaucoup plus loin parce qu'elle parle des effets de looping, qui fait qu'à partir du moment où une population se rend compte qu'une culture entre guillemets existe, le fait de transformer quelque chose en culture entre guillemets ça entre dans leur manière de voir le monde, c'est-à-dire ça se transforme en culture avec un grand C. Et donc il y a une espèce de spirale assez vertigineuse qui fait que aujourd'hui, mais ça c'est ce que l'on constate tous sur nos terrains quand on travaille sur le patrimoine, la patrimonialisation, c'est une pratique qui est totalement acculturée et qui est devenue assez banale dans nos sociétés.
Qu'est-ce que tu as ?
Acculturée, ça veut dire que c'est plus simplement une pratique du haut vers le bas, c'est plus simplement une pratique de l'élite, c'est aussi une pratique qui est partagée et qui est effectuée et qui est mise en place par des gens qui ne sont pas des spécialistes du patrimoine.
Pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez approfondir un petit peu sur la question patrimoniale, cette différence ? Comment est-ce que vous passez de culture à... Et vous ne décrivez pas patrimoine, entre guillemets, et patrimoine, entre guillemets, ni l'un ni l'autre, vous l'écrivez. Donc, comment est-ce que vous passez de culture à patrimoine ?
Après, c'est toi qui aurais pu l'écrire, ça.
Oui, peut-être que c'en est une, je ne sais pas, mais non... Pour moi, il y a une sorte de gradation. Il y a beaucoup de mots qu'on reprend dans l'anthropologie du patrimoine, qui est histoire, mémoire, patrimoine, culture, corpus, etc. Et moi, j'ai l'impression que le patrimoine est une des déclinaisons possibles de la culture. Voilà. Donc, c'est-à-dire que... Il peut y avoir des archives, il peut y avoir des bibliothèques, il peut y avoir des savoir-faire, il peut y avoir du patrimoine, qui est une catégorie qui englobe un certain nombre d'objets à l'intérieur de ce qu'est anthropologiquement, ce qu'on entend être anthropologiquement une culture en anthropologie.
Je rejoins ce point de vue, mais finalement qui est relativement simple. Cette idée que, patrimoine avec un petit p, patrimoine avec des guillemets, ça c'est une question que je travaille depuis longtemps, c'est-à-dire d'essayer de saisir des formes de cristallisation, des formes d'activité patrimoniale, de célébration, d'attachements patrimoniaux, qui soient le fait de collectifs, qui soient le fait d'associations divers. Et qui ne soit pas relié à des institutions avec des effets d'imposition. C'était aussi un argument qui était assez et qui permettait de voir que la notion de patrimoine s'était largement diffusée, au moins dans l'espace européen occidental, et qu'elle pouvait aussi se, selon des modalités qui sont beaucoup plus complexes, dans d'autres espaces, dans les espaces non occidentaux. C'était un argument qui était aussi à l'origine du séminaire. J'étais parti de la phrase d'un historien que j'aime beaucoup, Jean Chéneau, un historien marxiste, qui avait écrit ceci, « Le passé et l'histoire sont bien trop importants pour être laissés aux seuls historiens. » Et je me pose la question de savoir si effectivement la culture est bien trop importante pour être laissée aux seuls anthropologues. C'est un thème aussi qui circule dans le texte, dans l'ouvrage, qui est inversé d'ailleurs par une auteure, par Sarah Rojon, et qui vise à essayer de prendre la mesure ou de faire ce travail de souligner le fait que la question patrimoniale me semble aujourd'hui avoir largement débordé les institutions patrimoniales. Ça, c'est un thème que tu connais puisque je l'ai développé dans un article à paraître. A largement débordé les institutions. Et si on veut saisir la question patrimoniale, on ne veut plus le saisir par le filtre des institutions patrimoniales, de même qu'on a de plus en plus de mal à le saisir par le filtre des seuls travaux anthropologiques. T'as tout le travail de ce point de vue-là de Cyril en est un bel exemple.
Alors, il y a un autre point que Cyril n'a pas évoqué dans son article. Le lien entre également les processus de patrimonialisation et la religion. Mm-hmm. Alors, c'est pas pour rapprocher les deux, enfin, parce qu'on a souvent fait la confusion en évoquant la sacralité du patrimoine, mm-hmm. C'est pas du tout ce que tu veux dire.
Oui.
Simplement, est-ce que tu peux développer un petit peu, puis ça me permettra également d'interroger après Anne-Marie sur son sujet.
Si vous permettez, je vais partir d'un exemple que j'aime bien donner et que je répète assez souvent, mais bon, excusez-moi si vous l'avez déjà entendu. Mais quand j'ai travaillé à Rhodes, sur l'île de Rhodes, sur la communauté catholique, j'ai notamment travaillé avec un retraité anglais qui était installé à Rhodes depuis longtemps. Donc Rhodes, c'est une île de la Grèce tout à fait orientale. Elle se trouve à quelques kilomètres des côtes de la Turquie. Il y a une ancienne colonie, c'était une ancienne colonie de peuplement italienne, donc ce qui fait qu'il y a encore une population catholique de descendance italienne qui vit sur l'île, même si aujourd'hui on est dans un contexte grec-orthodoxe majoritaire. C'est un lieu de vacances et de résidence pour beaucoup d'Italiens, de résidence secondaire pour beaucoup d'Italiens, mais également pour d'autres catholiques ailleurs, et notamment ce John qui était un coiffeur anglais de la City, qui avait choisi de passer sa retraite à Rhodes parce qu'il venait là toujours en vacances. Et puis sa fille s'était mariée avec un gars du coin. Et donc, du coup, il a décidé de venir s'installer là pour sa retraite. Il était catholique et il avait envie de faire quelque chose pour sa paroisse. Et le curé de la paroisse catholique lui a dit, écoute, c'est très bien, je suis très content que tu viennes m'aider et tu vas être en charge du cimetière. Et donc, avec le curé, ils ont commencé à rénover le cimetière, à faire l'inventaire de toutes les tombes qu'il y avait, à faire évidemment l'inventaire des défunts qui étaient là, à restaurer le cimetière, puisqu'il était évidemment dans un sale état. Et comme John était coiffeur, il se charge aussi de préparer les corps catholiques des défunts. Donc, il les coiffe, il les barbe, il les maquille, il les prépare, il les habille, voilà. Et en plus de ça, le prêtre l'a chargé d'une fonction rituelle spécifique, puisque c'est le prieur de la confrérie des âmes du purgatoire. Donc c'est une des confréries qui existe encore, qui est issue du monde post-tridentin catholique classique qu'on connaît. Et il est chargé rituellement, toutes les semaines, de faire des prières avec un groupe de personnes pour spécifiquement les âmes de la communauté. Et quand je parle avec lui et quand je fais la visite du cimetière avec lui, il me raconte tout ce qu'il fait. Donc là, il fait de la maçonnerie, il fait du jardinage, il fait de la mise en beauté des défunts, il fait des prières et il fait des visites guidées pour les gens qui viennent visiter le cimetière. Et il me parle de la beauté de ce cimetière, de la fierté qu'il a à s'occuper des morts et à les rendre beaux pour leur dernier voyage, etc. Et il me dit que profondément, pour lui, c'est une action religieuse. Ce n'est pas une action proprement patrimoniale, mais pour lui, c'est une dévotion. Donc, on n'est pas dans le registre de dire il y a un culte du patrimoine avec des grands temples qui seraient les musées, avec des officiants qui seraient les conservateurs. Non, là, on est dans une application un petit peu différente. C'est une appropriation religieuse des fonctions patrimoniales qu'on lui a attribuées. Et moi, j'essaye de travailler là-dessus en essayant de voir comment est-ce que les cadres culturels des religions, et notamment monothéistes, sont propices au développement ou à la diffusion du patrimoine et des pratiques patrimoniales dans des cadres tout à fait petits et restreints. Là, je vous parle d'une communauté. Sur le papier, ils disent qu'ils sont 2000. En fait, quand je vais à la messe le dimanche, ils sont 400 et il y a 90% de personnes qui sont des touristes qui viennent là à Rhodes. Donc, c'est une toute petite communauté qui se compte sur les 5 doigts d'une main, pas beaucoup plus. Voilà. Donc, c'est ce renverse-là que moi, j'essaye d'opérer pour éviter toute la discussion très problématique et très épineuse de ce que Daniel Fabre appelait, pas seulement lui, mais Mona Ouzouf avant lui, le transfert de sacralité. Voilà. Pour peut-être sortir de quelque chose qui me paraît pour l'instant une impasse. Voilà.
Donc Anne-Marie, est-ce que c'est beaucoup moins sympathique ton terrain en Colombie, mais ce lien entre la religion, la sacralité et le patrimoine, tu l'as rencontré aussi. Est-ce que tu pourrais nous développer un petit peu l'exemple que tu...
D'abord, mon terrain se situe en Colombie, l'Occident colombien, dans un milieu de aujourd'hui appelé afrodescendant, c'est-à-dire de noirs. C'est la région de mon tout premier terrain il y a longtemps, et c'est un terrain dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est profondément sympathique. Il est tragique en même temps, il est tragique parce qu'il est, touché depuis plusieurs décennies par une violence armée multiforme, et ce qui ce qui fait l'objet de, mon, de ma contribution à ce volume, parle de quelque chose qui effectivement est bien au-delà des limites du sympathique. Mais si vous le permettez, je commencerai peut-être par, d'abord par remercier Jean-Louis de m'avoir accueilli dans ce volume, considérant que je ne faisais pas partie de, du séminaire dont il a été question ici, et que mon, mon approche du patrimoine, sachant que je ne suis pas du tout une spécialiste du patrimoine, mais une simple anthropologue ethnographe, est venue simplement par la continuité de mes retours sur le terrain et par là même l'accompagnement des conséquences d'un massacre qui a eu lieu dans le village de Bella Vista, qui est l'objet de ma recherche dans, dans ce volume. Je voudrais peut-être dire, avant de, d'aborder cette question très importante de, la, de l'articulation entre le religieux et le patrimonial, sur lequel je rejoins Cyril dans une large mesure, que j'avais déjà travaillé, bien que je ne sois pas du tout spécialiste du patrimoine et je ne prétends pas l'être, sur mon terrain d'Europe centrale, en Hongrie notamment, j'avais travaillé avant sur deux modalités de muséification du passé communiste en Hongrie, donc deux musées qui existent encore aujourd'hui, l'un appelé Memento Park, aujourd'hui, quand il a été ouvert, c'est un musée en plein air, contenant un grand, une grande partie du statuaire monumental qui ornait les espaces publics pendant le communisme et qu'on a retiré, résolument retiré de l'espace public dès 90, en fait, et qu'on a regroupé dans une entreprise muséale particulière à la lisière de la ville, dans un contexte de, d'usine abandonnée et qui pendant longtemps a été populairement appelé à Budapest le cimetière des statues. Et donc, si j'en parle, c'est parce que ce premier travail, j'ai fait ça à la fin des années 90, un aspect très paradoxal de la patrimonialisation m'est apparu à travers cette expérience que je retrouve d'une certaine façon à Bella Vista bien plus tard. J'ai appelé l'article que j'ai consacré à ça, qui est paru en, dans l'Ethnologie française, le patrimoine de l'oubli. Et il m'a semblé qu'il y avait un aspect de la patrimonialisation, et notamment dans sa dimension de muséification, qui était peut-être peu présent dans les études, en tout cas, que je connaissais sur ce sujet, qui était l'effet de mise en, de mise en réserve, de mise en retraite d'un certain nombre de, d'emblèmes, d'objets, de... liés à des événements que la société souhaitait, moyennant cette muséification, non pas conserver, mais bien oublier. Et donc, cette fonction paradoxale d'une muséification qu'on peut couramment considérer comme, comme l'un des outils principaux d'une patrimonialisation plus classique, donc dans une optique de conservation, dans une optique de préservation, servait là, dans ce moment de la transition post-communiste, un objectif beaucoup plus paradoxal, beaucoup plus complexe, qui tenait davantage à un oubli social, à une volonté d'invisibilisation et d'oubli qu'à une volonté véritablement de préservation. Et si on a choisi cette façon paradoxale de conserver quand même ce statuaire, c'est que la Hongrie, comme d'autres pays post-communistes, dès cette époque, en retournant vers son passé d'avant la Deuxième Guerre mondiale, est est pris en tenaille entre l'injonction patrimoniale provenant de l'Occident, qui, comme dirait Michael Hertzfeld, est l'univers de référence idéal typique de ces pays, et d'un autre côté, une tentation de destruction ritualisée dont il y a eu quelques actes à la fin du socialisme et au moment de la transition, de destruction presque ritualisée d'objets statuaires monumentaux signifiant ce passé qu'on voulait répudier. Et donc, prise en tenaille entre ces deux exigences contradictoires, cette muséification, il y en a d'autres en Europe centrale, a construit une figure très paradoxale de patrimonialisation de la répudiation de l'oubli de la mise en retraite.
La Colombie.
Alors, pour le coup, là encore, à Bella Vista, qui est un village noir de la région du Chocó, en 2002, en mai 2002, a lieu un massacre qui produit dans un village de 1200 habitants 140 victimes. Donc, qui décime en quelques minutes une dixième partie du village. Le village et la région sont pris en tenaille entre un front paramilitaire et le mouvement guerrillero des FARC, qui s'affronte pour le contrôle du territoire. La population du village, une partie de la population du village, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées, se réfugient dans l'église du village, s'enferment dans l'église, et les FARC, donc le mouvement guerrillero, jettent sur l'église une bombe artisanale d'une très grande puissance qui pulvérise les gens, littéralement, je veux dire qu'il les démembre en morceaux, le 2 mai 2002. S'ensuit une fuite généralisée où le village se vide de ses habitants. Les gens fuient vers la capitale de la région ou vers d'autres villes. Après avoir activement ramassé et mis dans des sacs en plastique des restes, des corps démembrés qui parsèment les environs de l'église. Ils vont revenir petit à petit et une reconstruction. Le massacre est médiatisé immédiatement. L'État colombien intervient d'une façon très massive, ainsi que d'État d'ONG. Et l'État colombien a une proposition impérative pour le village, c'est la reconstruction d'un nouveau village, contraire aux traditions dans le Chocó, où les villages sont toujours au bord même des rivières, un peu plus loin, éloigné de la rivière, à 2 kilomètres de l'ancien village, qui est en ruine. Ce sont des maisons surpilotées en bois, avec l'église en briques, qui sont en ruine. Et quand j'arrive, moi, 13 ans, 14 ans après ce massacre, le nouveau village est déjà construit avec une nouvelle église. Les gens sont relogés dans des maisons en briques, en dur, etc. Des tas d'interventions de réparation des victimes ont déjà eu lieu. Et en arrivant là, je rencontre en tant qu'ethnographe une concentration extraordinaire de divers acteurs et intervenants, ONG, État, etc. Et je décide donc de m'éloigner un petit peu et je prends le chemin de l'ancien village. Et je découvre là, tout simplement, ça s'est passé comme ça, que il y a des gens qui travaillent gentiment, là, en silence, autour de des ruines de l'église et des ruines des maisons. Il faut imaginer la région de Choco comme étant une des régions les plus pluvieuses du monde. C'est une région de forêt. Donc, si on ne nettoie pas et on ne défriche pas en permanence, une maison ou un bâtiment abandonné est recouvert en quelques mois entièrement par la végétation. Et je vois ces gens qui défrichent. Qui défrichent inlassablement, sans aucun discours. Et je comprends qu'il se passe quelque chose là, avec ce village en ruine dans lequel personne n'habite plus, et que l'État souhaite démolir, puisque le nouveau village est déjà reconstruit. Et c'est là que mon objet prend corps. C'est là que l'objet sur lequel je travaille prend corps. Et là où la dimension religieuse entre nécessairement, c'est dans le fait que cette église en ruine a encore, au moment où où j'arrive, et ensuite quand j'y retourne, un crucifix, le crucifix central de l'église, avec un Christ que les gens appellent désormais le Christ mutilé, parce que la bombe qui est tombée sur l'église a coupé les deux bras et l'une des jambes du Christ. Et c'est autour de ce Christ mutilé, qui est devenu un autre Christ par rapport à celui qu'il était avant, quand il était intact, que va se construire la volonté inflexible d'une grande partie des habitants de ne pas accepter de laisser le village en ruine et l'église en ruine être recouverte par la végétation, encore moins de le voir détruit, et encore moins de le voir reconstruit. Ce que les gens veulent, c'est de le garder, garder l'église et garder le village dans l'état où la bombe les a laissés. Et il m'a semblé que là encore, il y avait l'émergence d'une pratique de conservation qui, à mon avis, et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon article, ne devient une tentative de patrimonialisation qu'à partir du moment où les habitants rencontrent l'opposition tenace de l'État qui souhaite que le village soit abandonné, qui souhaite donc que ce village cesse d'exister, qui souhaite que ces ruines cessent de rappeler le massacre. Et le centre, El Centro de la Memoria Histórica, qui en Colombie a joué un grand rôle dans le post-conflit, et qui a une excellente équipe d'anthropologues, et divers autres ONG qui souhaitent aider les habitants à garder le village en ruine, et qui leur offrent en quelque sorte, pour ce faire, l'idiome patrimonial. C'est-à-dire qu'ils leur offrent la possibilité de formuler leur attachement à ce lieu et leur disons leur perception du lieu comme étant à la fois le lieu de l'émergence d'une nouvelle sainteté, de ce Christ mutilé, qui commence à faire des miracles par ailleurs, et qui commence à protéger ceux qui s'adressent à lui. Au moment où les ONG et les Centro de la Memoria Histórica entrent en jeu, les habitants deviennent, par le contact avec eux, capables de formuler leur attachement à ce lieu, leur perception du caractère non profane de ce lieu par le sang qui a marqué l'église, par les restes des morts qui ont marqué le sol, mais aussi par le souvenir d'une vie avant le massacre. Ils offrent un idiome patrimonial dans lequel les habitants pourront désormais, en passant au registre culture, entre guillemets, défendre leur volonté de garder cet espace, ces bâtiments, cette église en ruine, en ne reconstruisant pas et en ne démolissant pas. C'est là, dans ce cas précis, que le religieux et le patrimonial se lient et où les habitants s'approprient d'un idiome patrimonial pour défendre un lieu qui est devenu pour eux à la fois un lieu mémoriel, un lieu d'attachement, et en même temps un lieu qui a clairement une dimension religieuse de sacralité, par la nouvelle apparence du corps.
Donc on voit bien dans cet exemple que le patrimoine renvoie à une expérience véritablement des acteurs eux-mêmes. Et dans le texte, dans l'introduction, il est évoqué à un moment par Jean-Louis Tornator que le patrimoine instaure, ou l'expérience patrimoniale instaure un brouillage entre haute et basse culture. C'est que l'expérience patrimoniale, quand ces anthropologues en particulier qui les accompagnent, contribuent à briser ou à faire se transformer les frontières entre haute et basse culture. Est-ce que tu peux revenir dessus, Jean-Louis ?
Alors, haute et basse culture, j'avais emprunté ça, si je me souviens bien, à Regina Bendix.
Oui, tout à fait, oui.
Oui, c'est pas forcément... Et d'ailleurs, toute la question qui traverse ma réflexion sur le patrimoine depuis une vingtaine d'années consiste à essayer de saisir, comme je le disais tout à l'heure, les cristallisations et sur quoi se focalisent ces cristallisations. Il se trouve que depuis 2003, on a une convention internationale pilotée par l'UNESCO qui finalement rejoint ces préoccupations-là dans la mesure où elle était susceptible de donner la possibilité que ces formes, ces cristallisations et ces formes culturelles populaires ou anthropologiques, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, c'est bien ça le problème, puissent avoir droit de cité, puissent être reconnus au même titre que d'autres formes culturelles qui sont patrimonialisées au registre de la grande culture. C'est ça, cette différence-là. Alors, c'est vrai que si on... on considère le patrimoine comme expérience, on est bien évidemment obligé de saisir la diversité de ces registres de célébration, de reconnaissance, d'objectivation. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est précisément dans la mesure où l'ethnologie ou l'anthropologie patrimoniale dont il était question et pas une anthropologie des monuments historiques. Hein. Et il y a eu un volume consacré à l'ethnologie des monuments historiques. Ce qui m'intéressait, c'est effectivement d'essayer de voir comment ce qui est le fonds de commerce habituel des anthropologues pouvait retravailler sous le signe du patrimoine. Donc, bien évidemment, à un moment donné, peut surgir l'opposition haute culture et basse culture. Ceci dit, si on regarde le texte d'Aurélie Condevaux, qui raconte, qui parle de la
patrimonialisation, hein,
qui parle de la patrimonialisation du Lakalala, c'est un rituel qui est dans les îles Tonga et qui sont dans une société extrêmement hiérarchisée et qui est le fait de nobles, on voit bien que là, pour le coup, cette partition entre haute culture et basse culture, elle tombe complètement. Donc, toute la difficulté pour moi, dans ma préoccupation et mon intérêt pour des formes émergentes, pour ce qui se cristallise comme ça dans la société, dans les collectifs, dans l'espace public, je ne sais pas comment on pourrait le dire, comment précisément nommer ce qui émerge sans que ce soit en référence, ni à, en tout cas sans que ce soit référence à des formes de légitimation institutionnelle. Et c'est du populaire. Oui, c'est du populaire. Donc, alors, c'est ce que ça suppose de problèmes autour de cette notion qui est évidemment problématique. Avec Noël Barbe, on avance l'idée aussi, ça peut être du plébéien. Ça, c'est une question que qu'on essaye d'aborder, qui n'est pas présente dans le livre. C'est aussi de l'insurgent. Ça, c'est un travail que j'ai rencontré, une notion que j'ai rencontrée au Brésil, chez Leonardo Castriota. C'est aussi de l'irrégulier, ça c'est en référence à l'art brut, etc. Il y a donc diverses manières d'essayer de saisir ces formes. J'avais à un moment donné essayé de me dire, tiens, ça peut être la notion de citoyen, hein, dans une discussion j'avais avec Cyril, qui lui avait avancé la notion de patrimoine ordinaire. Ça a été un long débat. Toujours, d'ailleurs. Il n'est pas fini.
On les invitera une prochaine fois pour débattre.
Dans 10 ans, on verra si on est capable.
Je vais quand même pas monopoliser la parole et passer la parole s'il y a des questions à poser dans la salle. J'en ai encore une tripotée, là. Il y en a deux ou trois en particulier qui me disent, mais j'aimerais bien quand même que vous réagissiez.
Alors là, je pense que c'est une question très intéressante, en particulier dans cet univers-là, parce que pour donner un contexte à cette volonté implacable de vouloir garder les ruines, juste une petite donnée, il faut savoir que le Turku étant un univers de forêt tropicale, les maisons étant en bois, rien dans ce qu'on appelle la culture sans guillemets, donc dans la culture du Choco, des gens du Choco, implique jamais une conservation des maisons. Les maisons sont reconstruites, au contraire, tous les 10-12 ans, éventuellement ailleurs que là où elles étaient, en récupérant quelques matériaux de l'ancienne maison. Donc, c'est quelque chose qui vraiment est une conduite totalement émergente, totalement nouvelle, totalement inédite par rapport à cette culture que je connais depuis longtemps, que de vouloir conserver et vouloir conserver des ruines. En tant que, effectivement, j'ai essayé de réfléchir à cette volonté de conservation en termes de c'était tentant. C'était difficile d'éviter de réfléchir en termes de lieu de mémoire, parce que c'est désormais presque un lieu commun des études mémorielles que de tester la notion de lieu de mémoire. Et il m'a semblé que ces lieux, plus que des lieux de mémoire tels que Pierre Noir les définit dans la première version de sa gigantesque œuvre collective là, autour des lieux, des lieux de mémoire en France, plus qu'un lieu de mémoire, ce sont des lieux, des lieux récits. J'ai appelé ça des lieux récits. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où le massacre a lieu, enfin quelques, deux mois après, commence un extraordinaire investissement médiatique, étatique, ONG, journaliste, national et international sur Bella Vista. Cet investissement exige une constante demande de témoignage verbal de la part des habitants qui doivent inlassablement raconter le massacre, raconter les événements, raconter, etc. Et quand j'arrive, il y a un refus total d'évoquer verbalement l'événement. Et dans cette optique-là, je pense que c'est un lieu-récit dans le sens où ce lieu et la volonté de le garder permettent de sortir du terrorisme, j'oserais dire, pardon, d'utiliser ce terme très fort, entre guillemets, de l'exigence de témoignage verbal, d'exigence de récit constant sur le massacre, tout en gardant un ancrage mémoriel où une fois par an, le 2 mai, enfin l'anniversaire du massacre, se déroule toute une série d'événements mémoriels curieusement animés comme protagonistes par des jeunes. C'est-à-dire ceux qui ne l'ont pas vécu.
Dans l'ouvrage, il y a un autre exemple, alors Corinne est partie, mais je l'aurais volontiers répondu, qui est un texte d'une de mes anciennes doctorantes, Sarah Rojon, qui a travaillé sur des formes de patrimoine au Pays de Galles, en particulier, elle a fait une comparaison entre le Pays de Galles et Saint-Étienne. Et ce qui est très intéressant sur le Pays de Galles, c'est qu'elle montre en fait qu'il y a un travail d'animateurs, de citoyens, de gens, de groupes, appelons ça comme on veut, qui vont réinventer, simplement par le numérique, des lieux qui ont été complètement rasés. Et en fait, la mémoire continue à exister, et c'est la mémoire de ces personnes qui vont aller chercher dans les archives, qui va réinventer d'une certaine façon les lieux patrimoniaux qui ont été rasés par la période Thatcher qui voulait faire table rase des lieux de mémoire. Il n'y a pas de lieu de mémoire d'une certaine façon. Les lieux de mémoire, ils sont numériques aujourd'hui. Ils sont entièrement numériques.
Oui, c'est une question qui se rapporte plutôt au cadre ou aux références identitaires. Savoir si vous abordez ça dans cet ouvrage, dans la mesure où dès lors qu'il y a la patrimonialisation des patrimoines des institutions, là je crois qu'on peut encore avec l'assertion, il est évident que les différents processus de patrimonialisation vont aborder des objets très diversifiés, vous l'avez dit d'ailleurs, mais que donc du même coup, les renvois ou les références identitaires ou les références collectives vont pas être de même nature ou en tous les cas de même niveau. Le patrimoine avec un grand P, si on reprend les termes du vocabulaire politique, bien évidemment, va renvoyer à des références, ou à toute chance de renvoyer à des références identitaires assez largement partagées, au moins en tous les cas pas assez largement, je vais dire totalement, assez largement partagées par un ensemble de groupes ou un ensemble d'individus. Par contre, ce qu'on appelle parfois le petit patrimoine, ou patrimoine ordinaire, pour le premier mandat, bien évidemment, ne renvoie pas aux mêmes ensembles d'individus, aux mêmes groupes ou aux mêmes collectifs. Alors, savoir si, dans les implications, vous avez abordé ces questions, dans cet ouvrage, ces questions justement de différence dans les marquages identitaires que le patrimoine ou les processus de patrimonialisation sont susceptibles d'entraîner.
Ce n'est pas une question qui est abordée pour la simple raison que la question de l'identité, personnellement, je l'ai évacuée de mes recherches. C'est une question qui est éminemment problématique. Et bien évidemment, il peut y avoir des mobilisations à des fins identitaires ou à des fins plutôt, je dirais plutôt de signifier un sentiment d'appartenance, de signifier une appartenance. C'est moins l'identité que l'appartenance qui serait davantage à mobiliser. Et c'est vrai que dans l'ouvrage, on n'a pas essayé on n'a pas problématisé, en tout cas je ne l'ai pas fait dans l'introduction, les différents niveaux d'appartenance et de revendication de l'appartenance. Effectivement, il y aurait le grand P, le patrimoine qui renverrait à une appartenance à la nation, je ne sais pas, ou alors à l'humanité, peut-être. L'Arc de Triomphe. Oui, à l'Arc de Triomphe, tiens. Ben oui. Est-ce que, oui. Mais il s'est passé toujours plein de choses sur le patrimoine. Les Bouddhas de Bamiyan aussi, ils ont été détruits. Les mosquées de Tombouctou, etc. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire à propos de...
Non, c'est juste qu'un grand patrimoine, c'est un peu plus que la moyenne.
Ça veut dire qu'il y a bien une identification. Ça veut dire qu'on sait très bien que lorsqu'on veut toucher à l'État ou à la nation, on va toucher l'Arc de Triomphe.
C'est plus un emblème qu'un patrimoine.
Voilà, c'est ça. Oui. Mais on ne se trompe pas de cible. C'est la cible. Voilà. De la même manière, les talibans, ils ne se sont pas trompés de cible lorsqu'ils ont bousillé les Bouddhas de Bamiyan. Ils ont touché là où ça fait mal. Eh oui, mais alors ça, on ne va pas rentrer dans le débat. Palmyre, effectivement, bien sûr. Vas-y.
Moi, je voudrais ajouter aussi qu'il y a enfin, c'est vrai que c'est plus juste de parler d'appartenance plutôt que d'identité. C'est plus juste parce qu'en fait, on se rend compte que quand on travaille avec les gens qui ont à cœur de sauver un patrimoine et de s'en occuper, ils ont plusieurs niveaux de volonté d'appartenance. J'avais travaillé à un moment donné sur les techniques de fabrication des terrasses en terre sèche, donc c'est-à-dire les montagnes qu'on transforme en terrain plat en terre sèche. Et alors évidemment, la personne avec qui je travaillais dans le petit écomusée local disait bah, « Tu comprends, c'est mon grand-père qui a fait les terrasses, alors voilà, c'est mon patrimoine, c'est le truc que je veux sauver parce que sinon plus personne ne sait le faire, etc. » Mais en même temps, il a participé à un projet européen de tous les techniciens de montage de terrasses en terre sèche à l'échelle de l'Europe, et il s'identifie en tant qu'Européen qui fabrique des terrasses en terre sèche. Donc c'était à la fois son grand-père, l'ancrage local de son village, mais c'était aussi une dimension beaucoup plus internationale et beaucoup plus large, dans laquelle il se reconnaissait autant que dans l'expérience ou dans le souvenir de son grand-père. Donc il y a comme ça des échelles d'appartenance qui se superposent, qui sont multiples, qui sont contemporaines, et qui ne sont pas exclusives les unes des autres.
Juste, les sociologues définissent l'identité non pas comme quelque chose d'unique ou d'univoque, comme quelque chose d'ailleurs de multiples facettes, et qui permet plusieurs appartenances simultanées. C'est là le sens de ma question, savoir si dans l'expérience anthropologique, vous aviez pu identifier ou saisir justement les différentes facettes de référence qu'on peut appeler ou caractériser des références identitaires.
Il y a plein de théories de l'identité. Moi, une que j'aime bien utiliser, parce que je la trouve assez pertinente, c'est celle de Frédéric Barthes, qui raconte, sur les frontières ethniques, qui raconte que, en fait, les différences, elles ne se jouent pas au cœur de qu'est-ce qui fait qu'on appartient à une culture ou à une autre, mais les différences, elles se jouent aux frontières. Donc, ce n'est pas le cœur de savoir... est-ce qu'on est fondamentalement comme ça ou fondamentalement comme ça? C'est plutôt là où ça va frictionner à la frontière, et souvent pour des broutilles, souvent pour des choses très 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 petites.
Donc c'est l'autre.
Oui.
Il y avait une autre question, pardon, excusez-moi.
Je travaille sur les jeux traditionnels. Je voulais poser une question. Je voulais essayer de voir et les pratiques. L'Amérique latine, et avec tous leurs objets, à la fois leur nomination, leur structure, les réseaux d'échange de la vie, que se construisent ces jeux-là, et à la fois toute cette possibilité et d'évoquer des représentations et des échanges qui soient liés, est-ce qu'ils ne peuvent pas être considérés comme patrimoine et comme une expérience anthropologique?
Et expérience anthropologique, les deux.
Tout peut être patrimoine.
Et tout peut être expérience anthropologique aussi.
L'intitulé du livre, même si
Est-ce que je peux me permettre de reformuler autrement votre question? Est-ce qu'on peut envisager que des ethnologues travaillant sur les jeux dans la Caraïbe puissent à un moment donné être institués comme experts des jeux pour faciliter leur patrimonialisation? Et comment se passe se déroule cette expertise?
Ah ben là, il faudrait faire venir Chiara Bortolotto, qui est experte pour l'UNESCO.
Ben oui.
qui n'est pas.
En fait, tu parles beaucoup d'expertise. Enfin, tu parles régulièrement d'experts, d'ethnologues experts.
Oui, dans l'introduction, en référence à son travail, où elle montre. Et parce que moi aussi, toi aussi d'ailleurs, tu as été conseiller pour l'ethnologie, donc tu as été expert. Nous avons été des experts.
Oui, mais. L'ethnologue chercheur peut être expert aussi.
Oui, c'est ça. Donc, ce qui souvent m'agaçait, c'était cette sorte de sentiment d'être dans une position inconfortable, dans le cul entre deux chaises. Moi, personnellement, je n'ai jamais été dans une situation. Je trouve inconfortable. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut être mobilisé comme anthropologue, comme expert dans un. L'instruction d'un dossier, c'est à partir du moment où on accepte d'être, il restera plus qu'à essayer de problématiser la situation que l'on est en train de vivre, et ni plus ni moins. Et c'est précisément ce qui ferait le fondement du problème, implication anthropologique. Qu'est-ce que ça fait de s'impliquer, de jouer s'impliquer dans des situations patrimoniales en tant qu'anthropologue et d'être à un moment donné requis comme expert pour un objectif quelconque. Qu'est-ce que ça fait? C'est ça qui est. Alors, tout à l'heure, Anne-Marie, je pourrais dire comment Anne-Marie est venue dans cet ouvrage. Elle est venue dans cet ouvrage parce qu'elle a participé à une ANR qui s'appelait Fabricam, et qui procédait, à laquelle j'avais été associé une journée où j'avais comme discutant. J'avais d'ailleurs invité dans le séminaire Anna Tariel de Vida, qui était une des pilotes avec
Valentina Batnarski
de ce projet, qui était en quelque sorte un projet qui faisait le. Se fonder sur l'étonnement d'ethnologues américanistes qui voyaient dans leur terrain arriver la question patrimoniale. Hein, c'est ce que tu racontes aussi, finalement, question, elle se trouvait confrontée à une sorte de retour. Hein, c'est un retour d'anthropologie, quelque chose qui prenne comme ça en pleine face. Et voilà, c'était. Ce questionnement était pour moi très intéressant parce que moi, je l'avais réglé depuis de belles lurettes à partir de mes fonctions de conseiller pour l'ethnologie. Et ce questionnement, il venait à un moment donné dans une situation où les jeux, où les places étaient simples. On a un anthropologue qui vient sur le terrain, qui fait son enquête, etc. Mais là, à un moment donné, ce qui se produisait, parce qu'il se voyait sollicité pour faire de l'instruction patrimoniale. Et on avait un brouillage des places comme ça qui se produisait. Et ce brouillage suscitait un grand désarroi. Ou, en tout cas, et d'autres, on le trouve dans des textes, pas ici, mais dans le texte de Chiara, une position d'inconfort, etc. Comment arriver à une. Il faut sortir de cette idée, enfin voilà, il faut trouver. Non, il n'y a pas d'inconfort. Voilà, il faut se mettre.
Et toi, Cyril, qui n'a jamais été conseiller pour l'ethnologie dans une marque.
Non, mais parce que.
Et lui, alors, il a baigné complètement.
Mais c'est fini, ça.
Il est comme un poisson dans l'eau.
J'ai été formé par vous, entre autres. Mon anthropologie du patrimoine, je l'ai apprise grâce à des anciens conseillers à la DRAC, et puis j'en fréquente encore. Donc, on n'a pas encore.
Il n'y en a plus beaucoup, hein, ça devient.
Mais j'en fréquente, donc.
Une espèce en voie de disparition, quand même.
Moi, j'essaye d'aller peut-être un peu plus loin, de manière un peu plus radicale, peut-être, mais peut-être que je me trompe et qu'un jour, je vais me casser la figure. Mais j'essaye, au contraire, susciter l'implication et j'essaye parfois de faire un peu violence aux informateurs pour leur dire « Mais allez, non, moi, je veux participer, je veux faire des trucs avec vous, vraiment. » Parce que j'estime que c'est la seule manière, on va dire, c'est présomptueux, mais on va dire, je pense que c'est une bonne manière de faire de l'ethnologie du patrimoine, c'est-à-dire de s'impliquer dans le processus, devenir un des acteurs du processus pour savoir comment ça marche. Alors, on ne peut pas le faire tout le temps parce que bah, c'est aussi c'est un lieu de pouvoir, le patrimoine, la fabrication du patrimoine, c'est un lieu de pouvoir, donc on ne peut pas tout le temps entrer dans ce champ de force aussi facilement. Mais par exemple, le dernier terrain que je fais, je demande à faire des visites guidées, à ce que ce soit moi qui fasse la visite guidée du lieu pour que j'ai une expérience commune avec les gens avec qui je travaille et qui sont intéressés par ce patrimoine. Et je pense que de même qu'un ethnomusicologue ne peut pas légitimement parler de son instrument et de la musique qu'il étudie s'il n'apprend pas l'instrument, bah, parfois en anthropologie et en ethnographie, si on est trop loin de son objet, on rate peut-être quelque chose qui est assez essentiel à la pratique de l'ethnologie, quoi. Et dans le patrimoine y compris. Alors c'est vrai qu'on a des objets qui ne sont pas problématiques. Voilà, est-ce qu'on pourrait faire de l'ethnographie dans des milieux très conservateurs, au Ku Klux Klan? Est-ce qu'on peut faire de l'ethnographie dans une secte? Ça s'est fait, hein, ça a existé, il y a des gens qui l'ont fait. Voilà, bon, il y a des positionnements méthodologiques qu'il faut négocier à chaque fois. C'est vrai que dans le monde du patrimoine, on est globalement sur des objets qui ne posent pas beaucoup de problèmes. C'est pas des problèmes, pardon, peut-être là, quand il s'agit de la mémoire des morts et des massacres, de la guerre ou de la souffrance, on est peut-être dans des choses un petit peu plus compliquées, mais globalement, ce ne sont pas des objets qui posent beaucoup de problèmes. On peut assez aisément participer.
Parfois, c'est manipulé par des populations qui posent problème à l'État dans lequel elles vivent. Il y a des vraies prises de risques pour certaines populations face à l'État. Soit c'est imposé et l'État national peut manipuler absolument ce patrimoine étant glorifié sur la scène internationale, et parfois c'est des prises de risque pour certaines populations qui veulent, en ressortant, en signalant quelque chose de leur spécificité, qui vient contrer le discours national, et c'est très dangereux pour cette population-là. Donc il y a des enjeux politiques très forts, en tous les cas, quand on veut effectivement, sous prétexte de dire qu'on existe par le patrimoine, puisque c'est une façon qu'ont trouvé les populations autochtones de se distinguer à la marge, de se signaler, d'avoir une reconnaissance politique et faire passer d'autres choses. Parce qu'il y a beaucoup de leaders politiques, d'anciens leaders politiques, comme on le fait du monde, qui se sont mis dans le patrimoine. Parce que c'est un objet absolument politique pour eux, des limitations de terres,
alors, voilà, on y est. Et moi, je vais aller plus loin que Cyril, c'est-à-dire que moi, je m'engage politiquement, c'est-à-dire que ce que m'a appris l'anthropologie du patrimoine, c'est à pratiquer une anthropologie qui n'est absolument pas neutre, qui est complètement engagée, et qui... Alors, c'est une tradition qui n'existe pas tellement en France, hein. On va la retrouver davantage chez les anglo-saxons, hein, Manuela, au Brésil aussi. Manuela da Cunha est très engagée auprès des populations amérindiennes et qui jouent leur vie. On le voit en plus particulièrement avec Bolsonaro. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un assassinat d'un leader indigène, etc. Donc elle est prise. Ça veut dire que le positionnement de l'anthropologue à partir de la prise de conscience qu'effectivement le patrimoine est une activité éminemment politique, ben, il choisit son camp et il ne va pas faire une anthropologie du Ku Klux Klan, enfin, en tout cas moi pas, et donc je vais peut-être m'intéresser à comment des expériences radicales alternatives en France ou à l'étranger peuvent porter la question du patrimoine, voire ne pas la porter, comment cette notion-là est une notion qui est quand même politiquement instituée par un État, en tout cas par les États-nations et occidentales, comment cette notion-là, elle est peut-être avoir une opérativité au regard de situations alternatives. Ça n'est pas dans le livre, c'est la suite. Enfin, si c'est juste comme ça effleuré sur les dernières phrases, sur la question de la question politique, de l'engagement. Si on part d'une idée que le patrimoine est une... Parce que c'est la question du vocabulaire, il faudra que je revienne sur la question du vocabulaire. On part de l'idée que le patrimoine est un dispositif institué par les États-nations, en tout cas extrêmement fort dans la tradition française. On peut aussi considérer, on est obligé de saisir le lien qu'il y a entre le patrimoine et l'État, les premiers, entre le patrimoine et le capitalisme. On s'aperçoit que depuis deux siècles, le patrimoine est aussi un outil qui est mobilisé par les États-nations à des fins de contrôle des populations et d'aménagement des territoires. Donc c'est une notion qui est véritablement politiquement instituée et positionnée. Et que si on s'intéresse aux mouvements indigènes, aux mouvements, aux expériences alternatives de type ZAD, bien évidemment, on est obligé de de s'interroger sur la validité de cette notion-là. Et c'est dans cette perspective-là que, personnellement, moi, je travaille à l'exploration de ce que j'appelle un scénario contre-hégémonique du patrimoine, avec toujours la question de savoir si ce scénario peut exister sous ce nom-là, ou peut-être le mot est-il trop formaté, peut-être faut-il changer de mot, etc.
Je crois qu'il faut qu'on s'arrête, Corinne, c'est ça. J'avais quand même simplement une remarque à ta question, ton intervention. N'oublions pas quand même que l'UNESCO est un rassemblement d'États-nations, qu'il y a des délégués représentant les États UNESCO, et c'est l'UNESCO qui a défendu la démarche de communauté patrimoniale, qui sont censés, quand on lit les textes, pouvoir se désolidariser des États-nations. Donc il y a quand même une espèce de paradoxe fondamental sur lequel on ne revient pas suffisamment.
C'est la convention du Fargo, ça. C'est le Conseil de l'Europe.
Oui, j'étais très intéressée par les parties sur comment nommer ce qui émerge. Je suis déjà ministère de la Culture.
Il y a aussi singulier ou pluriel.
Vous avez employé le mot, vous avez donc parlé un patrimoine populaire, puis vieillant. La notion de patrimoine irrégulier m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous pourriez aller plus loin? Vous avez.
Oui, je vais vous raconter les circonstances. C'est un collectif dans le Berry, un collectif travaille pour la préservation de l'œuvre d'un artiste, on pourrait dire d'art brut, qui s'appelle Jean Linhart. Voilà. Et c'est ce collectif-là qui a forgé la notion de patrimoine irrégulier dans la continuité de l'art irrégulier, qui est aussi attribué à ce type de production, comme le facteur cheval, etc. Donc, c'était intéressant. On s'est retrouvés à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour discuter sur la question de l'habité, sur la question du patrimoine. C'était une circonstance intéressante.
Il y a le patrimoine irrégulier, puis il y a les irréguliers du patrimoine.
Les francs-tireurs du patrimoine. Bien sûr. Je voulais répondre à la question de Corinne sur la question du vocabulaire. Je voulais signaler que ce vocabulaire entre mémoire, patrimoine, histoire aussi, c'est un vieux débat qui nous a animés pendant toutes les années 2000, qui a donné lieu aussi à un bouquin, à un colloque à Évora. C'est de 2012, je crois, Évora, qui a donné suite à un bouquin sur les vocabulaires locaux du patrimoine.
Patrimoine entre guillemets.
C'était donc sous la direction de, entre autres, de Cyril et puis
Anaïs Leblond et Julien Mondas et Florence Grazer-Bidot.
Voilà. Donc la collectif. Finalement, on l'a abandonné cette question-là. Moi, pendant un moment, je l'ai beaucoup travaillé. C'est effectivement, ce sont des mots qui disent la relation au passé. Qu'on va mobiliser à certains moments donnés. Il y a aussi des moments politiques, il y a des raisons politiques à la mobilisation de mémoire plutôt que patrimoine.
Et puis heritage et patrimoine font beaucoup débat,
etc. Et finalement, il me semblait qu'à un moment donné, j'ai pris la... Je me suis dit, voilà, on va me focaliser sur la notion de patrimoine qui était intéressante parce qu'elle disait plus que mémoire. Le patrimoine ne réfère pas forcément au passé, il réfère à la culture, il réfère, etc. Il y avait un éventail plus large. Donc, voilà, c'était cette idée. Mais finalement, on revoit la mémoire, elle revient toujours, comme ça. Le territoire aussi, hein, c'est aussi des mots comme ça qui disent le passé, hein, et la culture. Voilà, on a tous, et on se trimballe avec ces mots, alors on a pris le patrimoine. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix, ça reste toujours indexé sur la question de savoir si. C'est une question qu'avait posée une collègue et amie, Hélène Hertz, qui est une anthropologue américano-suisse.
Suisse.
Mais elle est d'origine. elle est quand même.
Elle est
très d'origine. Qui posait la question dans un numéro collectif de la revue ethnographie.org, le patrimoine a-t-il fait son temps ? Voilà. Bon, c'était aussi une question ouverte qu'on a pas mal, discuté. C'est pas mal discuté autour de cette question-là, qui posait la question. Et moi, je le pose aussi au regard de la conjoncture actuelle, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de parler de patrimoine alors qu'on est dans des situations qui sont pour l'humanité catastrophiques. On est confronté à la question des enjeux majeurs de ce siècle, ce qui est le siècle de tous les dangers, concrétisés par la notion d'anthropocène. On est dans des situations qui sont politiquement aussi complètement instables. L'instabilité peut aussi nous atteindre, etc. Et il me semble que la question patrimoniale ne peut pas faire l'économie d'une réflexion au regard des situations qui affectent nos vies et qui vont affecter de manière parfois tragique, je pense, certainement tragique.
Mais... Considérer que le patrimoine, ce n'est pas simplement le passé, c'est aussi une projection vers le patrimonialisme, parce qu'on espère projeter quelque chose vers l'avenir. Bien. Ben, on va aller boire un petit coup.
Alors, je voulais vous dire qu'évidemment, tous ceux qui sont dans la bibliothèque peuvent être achetés directement par notre partenaire de ce soir, qui est la librairie des mots retrouvés, qui se trouve à
Ben merci à tous, merci à nos intervenants et merci au public pour vos questions.
Merci à vous.